Fatah pour...
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 22 septembre 2023. La suite du débat général aujourd'hui à l'ONU, 4 jours après son ouverture, l'île Maurice, le Gabon et le Lesotho sont les 3 pays africains sur la liste aujourd'hui. Dans le centre du Mali, la ville de Tombouctou sous blocus des djihadistes, encore touchée par des obus meurtriers.
Ce qui inquiète la population de Tombouctou aujourd'hui, c'est les tirs d'obus sur la ville. C'est ce qui est plus grave. Ça joue sur la conscience des gens. Les gens n'arrivent pas à dormir tranquillement.
Reportage de notre correspondant sur place à suivre dans la partie magazine. En Centrafrique, l'ex-président François Bozizé, qui vit en exil, a été condamné à la perpétuité pour rébellion. La Somalie demande 3 mois de pause dans le retrait des troupes de l'Union africaine. L'Ukraine revendique une frappe réussie sur le quartier général de la flotte russe en Crimée. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho. Pour l'instant, le journal. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé ce vendredi, lors de la 4e journée du débat de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, qu'Israël était sur le point d'établir des relations avec l'Arabie saoudite. D'autres dirigeants, comme le premier ministre de l'île Maurice, ont plaidé en faveur de l'éradication des inégalités dans le monde. Le point avec Eric Manirakiza.
Monsieur Netanyahou a vanté sa stratégie de paix en soulignant qu'elle a abouti à un accord historique comprenant 4 traités de paix avec 4 nations arabes. Il a qualifié les accords d'Abraham de tournant dans l'histoire, annonçant une ère de paix entre Israël et l'Arabie saoudite.
But I believe...
Je pense que nous sommes proches d'une avancée encore plus spectaculaire, une paix historique entre Israël et l'Arabie saoudite. Une telle paix ferait beaucoup pour mettre un terme au conflit israélo-arabe. Elle encouragerait d'autres pays arabes à normaliser leurs relations avec Israël. Elle augmenterait les possibilités d'une paix avec les Palestiniens et favorisera une réconciliation plus large entre le judaïsme et l'islam, entre Jérusalem et la Mecque, entre les descendants d'Isaac et les descendants d'Ismaël.
De son côté, le premier ministre mauricien a plaidé en faveur de l'inclusion, de l'équité et de la justice qu'il considère comme une nouvelle orientation pour éliminer les inégalités et les crises géopolitiques.
L'éducation, l'autonomisation des femmes est tout simplement essentielle. Les ODD sont notre étoile polaire sur cette voie. Et dans un monde entaché d'inégalités, notre engagement à faire sortir de la pauvreté les marginalisés et à autonomiser les personnes vulnérables doit rester indéfectible. Nous devons garantir l'inclusion. La force de notre société repose sur sa diversité. Un système éducatif efficace est essentiel pour parvenir à cette inclusion. Et autrement, nous aurons un monde à 2 vitesses qui aggravera les inégalités et l'instabilité mondiale.
Le discours du Premier ministre gabonais est prévu plus tard dans la soirée. Hier jeudi, Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, a averti depuis la tribune de l'ONU que la situation au Soudan représente désormais une menace pour la paix et la sécurité régionale. Également hier, le président du Kenya a exprimé sa conviction que Haïti mérite un meilleur sort, soulignant qu'il est le premier pays à s'être libéré de la colonisation et malheureusement laissé pour compte.
Conscient de l'urgence d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030, les dirigeants mondiaux, mais aussi des représentants des institutions financières et des banques multilatérales de développement, des personnalités du secteur privé et de la société civile, ont participé mercredi en marge du débat général de l'ONU à un dialogue de haut niveau sur le financement du développement. Makhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale, suggère de nouvelles orientations à l'issue de cette rencontre.
Les décisions que le secrétaire général et les chefs d'État vont prendre. Ce que je peux dire, c'est que les discussions qui ont été menées ici vont tout à fait dans le même sens que les discussions que nous avons au niveau du groupe de la Banque mondiale et des institutions de développement, qui visent justement à ajuster, à adapter le système financier international pour faire face aux grands défis que nous connaissons, que sont le changement climatique et la lutte contre la pauvreté. Malheureusement, nous avons des reculs importants sur les ODD. Nous avons besoin de rattraper ce retard et d'accélérer justement les investissements pour permettre d'avoir plus de réduire la pauvreté et de faire des progrès sur les ODD. Donc pour cela, il faut mobiliser plus d'argent du secteur privé et c'est le travail que nous faisons. Demain, le président de la Banque mondiale lance ce qu'on appelle le Private Sector Lab qui regroupera plus de 20 capitaines d'industrie pour discuter des conditions nécessaires pour mobiliser plus de ressources pour financer le développement et pour financer la transition énergétique. Il y a aussi, au niveau interne de la Banque mondiale, un certain nombre de mesures qui permettront une meilleure utilisation des ressources de la Banque mondiale, du capital de la Banque mondiale, pour pouvoir mettre plus de ressources à disposition des pays. Mais nous savons que les États ne pourront pas financer tous ces besoins. Il faudra le secteur privé et ça, c'est une partie importante des efforts que nous menons.
Makhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale, au micro de Kadiatou Traoré. Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé aujourd'hui 35 personnes dans une université du nord-ouest de l'État de Zamfara, a déclaré le porte-parole du gouverneur. Il s'agit du premier enlèvement majeur impliquant des étudiants cette année. L'ancien président de la République centrafricaine, François Bozizé, a été condamné aux travaux forcés à perpétuité à Bangui pour complot et rébellion. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
L'ancien président François Bozizé a été condamné par contumace, comme deux de ses fils et 20 autres co-accusés, dont des chefs rebelles. Ils ont tous été condamnés pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et assassinat selon le jugement lu par Joachim Pessiré, premier président de la cour d'appel de Bangui. Le jugement ne précise ni les crimes ni la période concernée. M. Bozizé, 76 ans, réfugié au Tchad jusqu'en mars 2023, avant d'aller en Guinée-Bissau, est le coordinateur de la Coalition des Patriotes pour le Changement, principale coalition rebelle centrafricaine formée en décembre 2020 et qui poursuit une guérilla dans le nord du pays. Parmi les condamnés, Ali Darassa, chef militaire en fuite de l'unité pour la paix en Centrafrique. La guerre civile déchire le Centrafrique depuis 2013. L'ex-Séléka, une coalition rebelle à dominante musulmane, a renversé François Bozizé. Il a tenté un retour au pouvoir en 2020, mais sa candidature à la présidentielle a été invalidée par la Cour constitutionnelle au motif qu'il était poursuivi pour des crimes présumés.
Le gouvernement somalien a demandé un report de 3 mois du retrait des troupes de l'Union africaine prévu fin septembre. Cette demande survient après que les forces somaliennes ont subi plusieurs revers dans son offensive contre les islamistes Shebab. Mohamed Oumfa.
Le gouvernement fédéral de Somalie demande officiellement une pause technique de 3 mois dans le retrait des 3000 personnels en uniforme de la mission de l'Union africaine de transition en Somalie, écrit le conseiller du président somalien à la sécurité nationale, Hussein Sheikh Ali, dans une lettre datée du 19 septembre. Une source diplomatique a confirmé l'authenticité de la lettre adressée à l'ambassadeur albanien Ferit Hoxha, qui dirige actuellement le Conseil de sécurité de l'ONU. La deuxième phase de retrait, pour passer d'environ 17 000 à 14 000 hommes, doit intervenir au 30 septembre, selon le calendrier prévu dans une résolution de l'ONU d'avril 2022, donnant mandat à l'ADMIS et prévoyant également un retrait total d'ici fin 2024. Cette demande survient alors que les forces gouvernementales et des milices claniques locales mènent depuis plus d'un an une offensive dans le centre du pays contre les islamistes Shebab. Si les opérations militaires ont permis de libérer des villes, des villages et des routes d'approvisionnement, les forces pro-gouvernementales ont subi fin août plusieurs revers importants selon la lettre. Le gouvernement assure toutefois être déterminé à ce que soit atteint l'objectif d'un retrait complet d'ici fin 2024.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Ukraine a revendiqué une frappe réussie sur le quartier général de la flotte russe à Sébastopol, en Crimée. L'attaque a fait au moins un disparu et a provoqué de probables coupures d'Internet dans la région. Le point avec Nani Talani.
L'ennemi a mené une attaque de missiles contre le quartier général de la flotte, a écrit le gouverneur de Sébastopol, Mikhaïl Razvodjaïev. Le ministère russe de la Défense a d'abord annoncé la mort d'un soldat, mais a précisé par la suite qu'il était porté disparu. Oleg Kryochkov, un responsable russe, a aussi annoncé que la Crimée a été touchée par une cyberattaque sans précédent contre les fournisseurs d'accès à l'Internet qui a provoqué des coupures. Il n'a pas indiqué si cette attaque informatique était directement liée aux frappes. l'armée ukrainienne s'est félicitée de cette frappe réussie contre le quartier général du commandement russe. L'étendue exacte des dégâts n'est pas encore connue, mais les autorités russes ont admis que le bâtiment était endommagé. Hier à Washington, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié le président Joe Biden pour l'aide américaine. M. Biden a détaillé une nouvelle aide militaire de 325 millions de dollars sans les missiles tactiques à longue portée que Kiev réclamait. M. Zelensky a atterri dans la soirée à Ottawa où il a été accueilli par le Premier ministre Justin Trudeau qui l'a assuré du soutien indéfectible du Canada.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Écho avec Nathalie Barge.
Au Togo, le ministère de la Santé a lancé un appel d'offres pour les travaux du projet Service de santé essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle dans la région des plateaux. 26 infrastructures constituées de centres de soins, logements et blocs sanitaires sont prévues dans 9 localités. Ce nouveau chantier s'ajoute à 80 infrastructures déjà programmées dans la région de Kara et celle des Savanes. Le fabricant chinois de composants de batteries pour véhicules électriques, CNGR, et le fonds d'investissement marocain Almada, détenus majoritairement par la famille royale, ont signé un contrat de 2 milliards de dollars pour construire une usine à Jorf Lasfar. La production, qui devrait débuter en 2025, vise à équiper 1 million de véhicules électriques par an. L'Afrique du Sud a enregistré au premier semestre 2023 une augmentation de plus de 70% des arrivées de touristes par rapport à la même période l'an dernier, pour un total de 4,8 millions de visiteurs, selon la ministre du Tourisme, Patricia de Lille. Toutefois, souligne-t-elle, ces chiffres présentent un déficit de 19% par rapport à la période pré-pandémique. Les Africains dominent les arrivées et les Européens constituent 14% des visiteurs dans le pays.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Football pour commencer, début ce week-end des matchs retour du premier tour des éliminatoires de la prochaine CAN féminine.
Oui, après avoir laminé le Rwanda 0-7, le Ghana reçoit son adversaire pour la manche retour qui se présente comme une formalité. Léger avantage pour le Burkina Faso qui accueille l'Eswatini à Boaké en Côte d'Ivoire mardi après son succès 2-3 à l'aller, absente de la dernière édition de la CAN féminine. L'Algérie qui a battu l'Ouganda 2-1 à l'aller reçoit les Ougandaises avec un but d'avance. Moins de soucis pour l'Égypte qui avait battu 4-0 le Soudan du Sud. D'autres pays sont toujours au stade des matchs aller. C'est le cas du Burundi et de l'Éthiopie qui se sont neutralisés un but partout ce vendredi. La République centrafricaine a subi le diktat du Mali, vainqueur 1-7.
Mondial de rugby, le pays hôte, la France, a corrigé la Namibie.
L'équipe de France a écrasé la Namibie 96-0. Les Français ont signé du même coup la plus large victoire de leur histoire lors de la troisième journée du Mondial 2023. Hier au stade Vélodrome de Marseille, la précédente plus large victoire des Bleus avait été obtenue contre la même Namibie battue 87-10 à Toulouse lors de la Coupe du Monde 2007. La France, en route pour les quarts de finale, jouera son dernier match de poule le 6 octobre à Lyon contre l'Italie. Seul point noir de cette soirée, la sortie d'Antoine Dupont à la 46e minute sur protocole commotion après un choc à la tête.
Justement, Joanne Dessel a présenté ses excuses à Dupont après cette blessure.
« Je ne voulais pas lui faire de mal », a affirmé le capitaine de la Namibie qui a présenté ses excuses après avoir blessé le capitaine français Antoine Dupont. Ce dernier a été victime d'une fracture au niveau de la mâchoire et incertain pour la suite du Mondial 2023. J'ai parlé avec le sélectionneur Fabien Galthié immédiatement après le match et j'ai envoyé mes meilleurs vœux et mes excuses à Antoine à titre personnel, a ajouté le 3-4 centre namibien. Suite au plaquage haut, à la 46e minute du match France-Namibie, Johan Deisel a écopé d'un carton jaune transformé en rouge par le corps arbitral.
L'Afrique du Sud, elle, affronte l'Irlande demain dans un choc inédit.
C'est presque une finale avant la lettre. Cette affiche entre l'Irlande numéro 1 mondial et l'Afrique du Sud, tenante du titre, s'annonce comme l'un des matchs les plus spectaculaires du Mondial 2023. D'un côté, les champions du monde sud-africains dans le rôle d'épouvantail avec leurs stars Siya Kolisi, Cheslin Kolbe, Faf de Klerk
et un banc de touche effrayant composé de 7 avant, de l'autre le 15 du trèfle de l'inusable Johnny Sexton, invaincu en 15 matchs. La première place du groupe B est en jeu, mais ce n'est pas l'intérêt principal de cette rencontre, puisque Sud-Africains et Irlandais sont de toute façon promis lors des quarts de finale à un favori de la compétition, à savoir la France, pays hôte, ou la Nouvelle-Zélande, triple championne du monde.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Plusieurs chefs d'État ont évoqué la résurgence des coups d'État en Afrique à la tribune des Nations Unies. Quelle est la position de l'Union africaine sur la question, notamment dans le bras de fer CEDEAO Niger? Alexandrine Ollongnon a reçu en marge de la 78e Assemblée des Nations Unies le président des Comores et président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani.
Bon, en fait, vaut mieux prévenir que guérir. Il a raison. Mais que quand quelqu'un est malade, il faut le guérir.
Comment ?
Il ne faut pas le laisser mourir pour prévenir ceux qui ne sont pas malades. Donc là, il y a deux fronts. Effectivement, il y a une maladie, il faut s'attaquer à la maladie. Mais c'est vrai, il a raison, il faut prévenir. Et ça, effectivement, je pense qu'on s'est mis d'accord qu'il va falloir qu'on se voie pour essayer de voir quelles sont les mesures qui peuvent dissuader les gens de faire ça. Et n'attendre pas qu'ils le fassent pour qu'on prenne les mesures. Donc effectivement, ce qu'il a dit, c'est compréhensible, hein, même si ce n'est pas justifié, mais c'est compréhensible, qu'on a intérêt puisque ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein, donc ça arrive là-bas, ça arrive ici, partout. Donc il va falloir qu'on prenne les mesures adéquates. Et moi aussi, j'ai proposé à ce que les mesures africaines, oui, mais maintenant nous avons une collaboration avec le monde entier. Donc maintenant, les mesures africaines, on va prendre, mais il va falloir qu'on voit comment les gens peuvent nous aider à ce que ces mesures-là puissent être appliquées. Donc voilà un peu en général. Bon, maintenant, ce qui se passe au Sahel, avec la recrudescence, ce qui est quand même dommage, surtout au Niger, où il y a eu des élections libres et transparentes, et tout le monde a accepté les élections. Et ce qui s'est passé, c'est quand même dommage hein, que ça se passe comme ça.
Quelle est justement la position de l'Union africaine pour un possible retour à l'ordre constitutionnel au Niger?
Ben, la position de l'Union, bon, nous, en ordre constitutionnel, c'est la règle générale. Hein, c'est la règle générale. Donc, au retour de l'ordre constitutionnel, c'est dommage parce qu'on ne voudrait pas que ça retourne. On voudrait que ça aille de l'avant. Vous voyez? Mais là, effectivement, on a fait ce qu'on appelle le changement anticonstitutionnel. Il va falloir plaider à l'ordre constitutionnel que ça retourne.
Vous y croyez?
En tout cas, j'y crois très fermement. En tout cas, ce n'est pas le premier coup d'État qu'il y a eu dans l'Afrique. Hein. Il y a eu des coups d'État, mais finalement, on a réussi à mettre l'ordre constitutionnel et puis ça a continué. Donc, j'espère que ceux qui ont passé par là et qui ont continué de l'avant, ils ne vont pas revenir en arrière.
Peut-on parler de l'entrée de l'Union africaine au G20? Qu'est-ce que cela va changer concrètement pour le continent africain?
Ça, c'est quand même un acte très fort. D'abord, sur le plan symbolique, hein. Donc l'Afrique a sa place. Hein. Dans ce qu'on appelle maintenant le multilatéralisme, là où les décisions se prennent. Mais le G20, c'est décision pas politique, c'est décision économique, socio-économique.
Azali Assoumani, président des Comores et président en exercice de l'Union africaine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Guinée plaide pour la création d'un institut international pour la coopération Sud-Sud. Comment se porte la Guinée 2 ans après le coup d'État et où en est le pays par rapport aux objectifs de développement durable? Alexandrine Ollongnon a posé la question à la ministre guinéenne de la coopération internationale, Rose Paula Prisemou.
L'un des points sur lesquels les autorités guinéennes ont misé, c'est la gouvernance, l'amélioration du cadre de gouvernance et du cadre macroéconomique et financier. Et cela a prévalu à la Guinée de passer d'un pays à revenus faibles à un pays à revenus intermédiaires. Et plus, notre évaluation sur le plan du risque, nous sommes passés d'un pays à risque élevé à un pays avec un meilleur score pour le niveau d'accès au financement. C'est toutes ces réformes qui ont prévalu à la Guinée un regain de confiance des partenaires. Et qui parle de l'atteinte des objectifs de développement durable, parle de la structuration des projets, parle d'une meilleure orientation de ces projets et aussi de l'accès à leur financement.
Mais comment cela se reflète dans le quotidien du Guinéen lambda?
D'abord, nous sommes venus trouver un pays où le taux d'infrastructure n'était pas assez important. Donc l'État s'est engagé d'abord à mettre en place des infrastructures, à la fois routières, industrielles aussi. Hein, et nous avons mis l'accent aussi sur le fait que l'exploitation minière, par exemple, devrait apporter assez de biens pour l'ensemble de la population. Et en ce sens, un des projets que je peux citer, c'est le fameux projet Simandou, qui est l'un des plus importants gisements de fer au monde et qui avait été négocié malheureusement pas dans l'intérêt du peuple guinéen. Et ce contrat a été revu dans l'intérêt de repositionner l'exploitation en se basant sur le contenu local. Aujourd'hui, comment cela se reflète sur le quotidien de la vie des Guinéens? Si autrefois on pouvait avoir 10 heures de coupure d'électricité, aujourd'hui cela est beaucoup plus relatif et beaucoup moindre. Après une heure ou deux, les Guinéens vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans mon quartier? Si autrefois il était question de passer dans d'autres pays pour avoir une éducation beaucoup plus, disons, réduisante, aujourd'hui c'est un système éducatif qui se réveille, c'est un système éducatif qui se compare à ce qui se passe à l'international et le dispositif est fait pour accompagner. Notre système de santé, malheureusement, est encore plein de défis. Mais l'État s'est résolument engagé à avoir des centres dignes de nom, avec des technologies de pointe, et cela en nous basant surtout au renforcement de capacités. Nous savons qu'en un ou deux ans, nous ne pourrons pas atteindre le niveau de renforcement de capacités voulu, mais nous avons mis une dynamique d'ensemble pour nous permettre que d'ici quelques années, nous puissions être à l'abri de ces besoins. Aujourd'hui, l'agriculture est remontée dans les priorités les plus absolues. La production nationale du riz a augmenté, faisant nous repositionnant au niveau de leader, au niveau sous-régional en Afrique. Le port autonome de Conakry a été évalué comme étant le premier port de la sous-région et c'est toutes des victoires que nous pouvons nous féliciter parce que la dynamique est lancée cette fois et nous ne nous arrêtons pas.
Rose Paula Prisemo, ministre de la Coopération internationale de la Guinée. Un blessés, 5 morts, c'est le bilan de nouveaux tirs d'obus sur la ville de Tombouctou. Les assaillants ciblent désormais des zones où sont concentrées les populations civiles pour frapper. En l'espace d'un mois, les obus ont endeuillé par deux fois la ville de Tombouctou. Le récit de notre correspondant Alouseni Aladji.
Ces projectiles ont encore endeuillé la ville de Tombouctou pour qui c'est devenu une habitude d'entendre chaque semaine au moins 3 explosions. Simple hasard ou acte prémédité, un des 3 obus lancés est tombé non loin de l'école Bahadou où sont basés certains rescapés de l'attaque du bateau. Ces rescapés qui n'ont pas encore oublié la dure épreuve qui a endeuillé toute une nation. Le deuxième est tombé à l'hôpital de la ville, tient 2 enfants. Une situation qui inquiète de plus en plus les populations de Tombouctou, Souri Touré, habitants de Tombouctou.
On parle aujourd'hui de la puissance de l'armée malienne. On voit qu'il y a des victoires. Mais ce qui est inquiétant, ce qui inquiète la population de Tombouctou aujourd'hui, c'est les tirs d'obus sur la ville. C'est ce qui est plus grave. Ça joue sur la conscience des gens. Les gens n'arrivent pas à dormir tranquillement. Franchement, tout le monde, même moi qui vous parle à chaque instant, c'est ça joue sur la psychologie des gens.
Cela fait 3 semaines que les assaillants opèrent le même jour, c'est-à-dire un jeudi. Le 7 septembre, l'attaque du bateau Tombouctou avait fait plus de 100 morts. La semaine passée, un jeudi également, 3 obus ont été lancés sur l'aéroport de la ville au moment où une délégation se préparait à aller au chevet des rescapés dans la localité de Rarous. Pour Salah Hamiga, membre du CNT en mission à Tombouctou, les assaillants n'ont qu'un seul objectif.
Et l'ennemi, il est entre nous, parce que aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, ce que chacun doit comprendre, c'est que nous sommes un pays qui est en guerre. Le minimum de l'information qui est profitable à l'ennemi, l'ennemi l'exploite. Et au mieux qu'il peut faire pour entraver, empêcher à ce que la vie courante puisse se faire, l'ennemi le fera. Parce que tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est de réussir à installer la terreur dans la ville de Tombouctou, dans la région de Tombouctou.
Le représentant du Conseil national de transition prévient.
Demain ne sera pas aussi sud du Bérin, en conséquence, que chacun dans son domaine puisse se préparer et de savoir que ce combat est un combat républicain qui mérite d'être mené, qui mérite d'être compris par les populations de Tombouctou. Aujourd'hui, il n'est caché pour personne les efforts, l'engagement de nos forces de défense et de sécurité.
Voyager sur Tombouctou aujourd'hui est une équation difficile à résoudre. Les bateaux ne lèvent plus l'ancre depuis l'attaque du bateau Tombouctou. Le vol de la compagnie Sky suspendu sine die. À Tombouctou, une seule phrase résonne sur toutes les lèvres: nous voulons la paix. De Tombouctou pour VOA Afrique, Al-Husseini Al-Hadji.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
L'entrepreneur sociale congolaise Kedsia Olangi, présidente de la Ligue des femmes du parti ACP du gouverneur de Kinshasa, va se présenter à la députation nationale lors des élections générales de décembre. Fille du célèbre couple de prédicateurs Feu Elisabeth et Joseph Olangi, elle combine l'économie, la politique et la religion pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Madame Olangi crée des coopératives d'agricultrices pour écouler leurs produits. Au micro de Nathalie Barge, elle explique comment elle soutient les maraîchères de Kinshasa.
Nous avons un supermarché Mabélé. C'est un supermarché où il y a plusieurs Congolais qui ont mis des fonds ensemble pour créer ce supermarché, où on va valoriser les produits des agriculteurs congolais. Alors moi, en rachetant ces légumes-là, non seulement je les vends dans ce supermarché, mais aussi j'ai identifié des femmes qui sont au chômage. Pour l'instant, on a d'abord 20 femmes. Donc ces femmes-là, on les a remis ces légumes-là avec des bassins bien emballés et elles le vendent dans des marchés. Elles vont souvent faire des porte-à-porte aussi pour vendre des légumes bien emballés que nous avons rachetés chez les femmes maraîchères, toujours des banlieues de Kinshasa. Donc ça aussi, c'est un programme. Ça veut dire, au niveau des femmes agricultrices, j'achète en gros, qui font qu'elles ont des revenus pour encore cultiver d'autres cultures. Et en rachetant cela, on a créé de l'emploi pour d'autres femmes qui sont au chômage. Et je pense qu'avec ce système, si on arrive à sélectionner plus de 1000 femmes ou 2000 femmes maraîchères à Kinshasa seulement, vous comprenez l'impact social et même l'impact économique que nous aurons apporté à ces femmes-là.
Vous êtes un des enfants de papa et maman Olangi. Vous-même, vous êtes très impliqué dans les questions religieuses. Pourriez-vous nous dire un petit mot sur vos activités?
Déjà au niveau de l'église, parce que c'est nous qui avons hérité de la fondation Olangi Osho, et la fondation régorge l'aspect spirituel qu'est l'église. Alors dans la fondation, je suis chargée des missions, donc je m'occupe des missionnaires à travers le monde, parce que notre église est représentée à travers le monde. Mais en même temps aussi, je prêche. Je réveille vraiment les femmes dans mes prédications. Et c'est ça, en fait, ma façon de servir Dieu. L'Église ne doit pas endormir les femmes, non. L'Église doit réveiller les femmes et les pousser au travail, les pousser à aller en politique, les pousser à être entrepreneurs, les pousser à être des femmes d'affaires. C'est ça, mon message.
Est-ce que votre parti politique, l'ACP, va mettre l'accent au niveau des listes électorales sur les femmes?
Oui, là, je peux dire, présentement, je me sens tête d'élite. Oui, le gouverneur a bien voulu vraiment accompagner les femmes. Et il avait vraiment demandé à ce que les femmes se représentent massivement dans les dépôts de candidature. Mais c'est comme je dis tout à l'heure, il y a encore un grand travail à faire. Beaucoup de femmes ont peur d'affronter. Elles ont peur de se dire, OK, il est temps que les femmes congolaises prennent des décisions aussi pour que les choses changent. Et quand une femme est au pouvoir, c'est différent d'un homme. Il y a eu vraiment un appel aux femmes. Bon, c'est vrai que pour la première fois, vu que c'était un nouveau parti, on n'a pas encore eu cette grande représentativité par rapport aux femmes au niveau des dépôts de candidature. Mais il y a vraiment, si je peux dire, une avancée. Donc, il y a des femmes qui sont représentées au niveau national, au niveau des communes, au niveau des bourgmestres, au niveau des députés provinciaux. Donc, il y a des femmes qui sont représentées.
C'était l'entrepreneur congolaise Kedsia Olangi, présidente de la Ligue des femmes du parti ACP. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.